Vous écoutez RTL.
7h48, Olivier Mazerolle, vous recevez Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Bonjour Ségolène Royal.
Bonjour.
Il y a une journée émouvante hier parce que Paris a accueilli 150 chefs d'État et Paris, d'une certaine façon, et la France est récompensée de ses efforts aussi. Maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, la COP21 au banc d'essai du réalisme. Hier, on a donc eu une journée formidable avec des tas de déclarations. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des demi-mesures, les bons sentiments ne suffiront pas. Faisons la conférence de Paris le succès que le monde attend. Et puis ce matin, tous ces chefs d'État, ils s'en vont, ils laissent leurs négociateurs et on connaît les négociateurs professionnels. Ils savent parfaitement faire en sorte que ça n'avance pas. Donnez-nous une raison d'y croire.
Alors je vais vous en donner deux raisons d'y croire. La première, c'est que précisément, les chefs d'État et de gouvernement sont venus avec leur autorité, avec leur engagement, avec les instructions qu'ils ont données à leurs négociateurs. C'est la première fois qu'il y a un sommet sur le climat dans lequel s'impliquent autant les chefs d'État, c'est-à-dire au plus haut niveau politique. Alors qu'avant, c'était un sujet, disons, un peu marginal, il faut bien le concéder, d'où les raisons. D'ailleurs, les conséquences sur le réchauffement climatique n'ont jamais été prises à bras le corps. Donc ça, c'est quand même la première raison. La seconde, c'est que pour la première fois, une réunion de haut niveau sur le climat est accompagnée d'actions concrètes.
Alors lesquelles ?
Alors je vais vous donner trois exemples des décisions qui ont été prises hier. D'abord, il y a une alliance mondiale sur le solaire, où plusieurs 25 à 40 pays se sont rassemblés pour dire que désormais, il fallait que les flux financiers arrivent sur les énergies renouvelables et qu'ils faisaient du développement de l'énergie solaire une priorité. Donc ça, c'est un engagement très concret qui est pris au niveau des chefs d'État. Donc du coup, les entreprises vont se mettre en mouvement et à mon avis...
Ça va être traduit financièrement ?
Bien sûr, ça va être traduit financièrement, ne serait-ce qu'à l'intérieur de chaque pays. Lorsque les choix politiques, stratégiques, budgétaires sont faits pour que montent en puissance les énergies renouvelables, il y a des résultats. La deuxième décision qui a été prise en présence de Bill Gates, qui a créé un fonds des fonds privés donc d'investissement pour doubler les moyens mis sur l'innovation en matière de croissance verte. Là aussi, plusieurs dizaines de pays étaient présents. Et la troisième décision qui a été prise, c'est une décision de coordination, une coalition des pays dont la France pour donner un prix au carbone, c'est-à-dire pour faire en sorte que lorsque les entreprises calculent leurs investissements, elles mettent un prix au carbone.
Très bien, le prix carbone, c'est très intéressant
c'est la
parce
seule
que
façon,
ça veut dire que les entreprises...
Et c'est la seule façon d'y arriver. Je vais vous expliquer juste une petite chose très simple. En Afrique, par exemple, qui est le continent le plus ensoleillé, et en même temps là où il y a les pays les plus pauvres et les pays qui ont le moins accès aux énergies solaires, alors qu'ils ne sont pour rien sur le réchauffement climatique. Avouez qu'il y a quand même de quoi ressentir une injustice. Comme me l'expliquait le président du Sénégal, ça coûte moins cher d'importer du pétrole que d'installer dans son pays des panneaux photovoltaïques pour éclairer les écoles, il y a quand même un problème.
Très bien.
Donc si
vous êtes optimiste et concrètement optimiste, très bien. Mais alors justement, l'Afrique et les pays qui sont les moins développés, ils ont besoin d'argent. Qui va payer ? Parce que nous, les pays riches, on dit « Bon, bah, écoutez, on veut bien payer, mais peut-être que les émergents ou qui maintenant sont devenus riches, comme la Chine, pourraient payer. » Le Chinois dit « Ah non, non, pas du tout. Nous, on ne dépensera pas un centime. C'est à vous de payer. Colonisation, etc. Tout désastre que vous avez accompli pendant des centaines d'années. »
Oui, non, mais c'est une bonne question. Il y a deux réponses à cela. C'est la première, c'est que, bien évidemment, les pays développés, industrialisés, qui ont utilisé les énergies fossiles, ont provoqué le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, on dit aux pays pauvres, écoutez, ne faites pas comme nous, n'utilisez pas le pétrole et le charbon, mais prenez tout de suite du renouvelable, parce que vous comprenez, on va tous aller mal collectivement. Les pays pauvres disent, ou les pays émergents disent que vous êtes bien gentils, mais enfin, nous, 70-80% de la population n'ont toujours pas accès à l'électricité. Si le pétrole est moins cher, on va pas freiner nos propres développements uniquement parce que tout d'un coup vous découvrez qu'il y a le réchauffement climatique. Donc c'est quoi la solution ? C'est un transfert de technologie. C'est pas des aides publiques traditionnelles dont on ne sait pas d'ailleurs ce qu'elles deviennent, où sont les intermédiaires et qui disparaissent plus ou moins ou qui nourrissent la corruption. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est du transfert de technologie. C'est-à-dire que les entreprises privées aient maintenant un intérêt, et c'est le cas, à investir dans les énergies renouvelables, dans le transport transport propre, dans la gestion des déchets, dans les pays émergents, parce que si l'on réussit cette transition énergétique dans les pays les plus pauvres, alors ils vont accéder au développement. Et donc il faut des partenariats croisés entre ces pays-là et les entreprises, parce qu'il s'agit de fonds privés. Il ne s'agit pas de prélever des impôts supplémentaires pour donner de l'argent aux pays pauvres. Ce n'est pas ça le sujet. D'ailleurs, ils ne le demandent pas. Je vais même vous dire, ce qui est dangereux dans les annonces des milliards qui virevoltent comme ça au-dessus de nos têtes, oui, c'est que les pays pauvres, 100 milliards, c'est que les pays les plus pauvres, leur population entend, ben vous allez recevoir 100 milliards. S'ils n'en voient pas les résultats, s'ils ne voient pas les projets, ils vont dire, mais où sont passés ces 100 milliards? Donc, il ne faut pas non plus que les pays les plus riches se donnent bonne conscience en lançant comme ça, lançant comme ça dans des conférences de presse des 100 milliards qui n'existent pas.
Est-ce qu'on peut accorder du crédit, par exemple, à Mme Merkel? Elle nous dit, il faut un accord ambitieux. Elle asphyxie toute l'Europe avec ses centrales à charbon.
C'est vrai qu'il y a eu un problème en Allemagne, notamment des centrales à charbon.
Il y a toujours.
À ciel ouvert, en plus, parce que l'Allemagne a renoncé au nucléaire et a rouvert des centrales à charbon. C'est un problème, parce qu'on passe d'une énergie décarbonée à une énergie qui produit effectivement du CO2. Mais l'Allemagne investit massivement et est en train de monter en puissance à la fois sur le renouvelable et sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Elle le fait avec beaucoup de détermination. D'accord. Et je pense que c'est un pays qui va justement devenir exemplaire.
Des pénalités
et Mme Merkel, d'ailleurs, était là dans la coalition des pays sur les marchés carbone, et ça, c'est une très grande nouvelle.
Il y aura des pénalités ou des contraintes pour ceux qui ne respecteront pas leurs engagements?
Oui, il y aura un système de contrôle des engagements, mais ce qui est plus intéressant, c'est de considérer que les pays ont intérêt à réaliser cette croissance verte. Donc on n'est pas, il n'y a pas besoin de mettre un gendarme du monde pour dire vous allez faire ce que vous avez promis, puisque c'est créateur de valeur. Vous voyez, on est en train de basculer dans un nouveau système économique gagnant-gagnant qui fait que des entreprises, des fonds financiers comprennent que c'est important d'investir dans l'économie du futur et qu'en même temps, ça produit du bien-être, de la santé publique, du développement économique, et cela dans les pays les plus riches, comme dans les pays émergents, comme dans les pays les plus pauvres.
Madame Royal, on va revenir à nos petites affaires franco-françaises. Les Échos annoncent ce matin que les sociétés d'autoroutes vont augmenter leurs tarifs bien au-dessus de l'inflation. En 2016, vous allez laisser faire ?
Écoutez, je ne suis pas au courant de cette annonce, donc je vais regarder immédiatement de quoi il s'agit.
Parce que ça voudrait dire que le gel de 2015, finalement, c'était une petite rémission, mais
oui,
qu'il n'y
a pas de guérison.
Oui, il
ne faudrait pas que les sociétés d'autoroute profitent de la COP pour faire des annonces intempestives. Je vais regarder.
C'est pas une annonce, ça, c'est les Échos qui disent.
C'est
voilà,
les Échos, oui, ben les Échos, c'est les Échos, mais je vais regarder.
Une augmentation au-dessus de l'inflation, c'est exclu.
Je ne sais pas si cette information est exacte. Et en tout cas, c'est exclu puisque ce qui est l'engagement qui avait été pris, c'est de ne pas dépasser l'inflation et même d'être en dessous de l'inflation compte tenu du pactole que les compagnies autoroutières
2017.
Avaient déjà accumulé dans le passé.
Donc, hors de question.
Je vais regarder ce sujet.
Très bien. Merci beaucoup, Ségolène Royal.
Trois motifs objectifs d'optimisme, vient de nous dire, concernant la COP21, Ségolène Royal. Tout d'abord, l'Alliance mondiale sur le solaire, la croissance verte poussée par Bill Gates et les entreprises privées, puis le carbone qui a d'ores et déjà un prix. On a bien compris aussi que la ministre de l'écologie allait regarder d'un peu plus près les éventuelles hausses de tarifs des autoroutes. Merci à tous les deux. L'entretien est à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr.